Deutsche Welle, Économie et développement.
Contrebande, corruption, fraude, exploitation illégale, lien avec les groupes armés. Le commerce de l'or est loin d'être brillant dans l'est de la RDC. L'ONG Global Witness a dénoncé les agissements d'une entreprise chinoise implantée dans le sud Kivu. Les habitants accusent les autorités d'être complices et demandent quand seront construits les hôpitaux et les écoles dans la région. Et puis un sujet un peu plus léger, les jeunes Rwandais ont leur radio pour parler de la résolution des conflits, mais aussi d'emploi pour un meilleur avenir. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, Claire-Marie Kostmann à la présentation, bienvenue. En juillet dernier, l'ONG Global Witness révélait les agissements de l'entreprise chinoise Kulu Mining le long de la rivière Ulindi, en territoire de Shabunda, à plus de 300 km de la ville de Bukavu. Elle aurait acquis entre 2014 et 2015 plus de 17 millions de dollars dans l'exploitation semi-industrielle de l'or en collaborant, entre autres, avec des groupes armés. Début octobre ont eu lieu plusieurs interpellations dans ce dossier, dont des membres de l'administration provinciale. Notre correspondant au sud Kivu, Moudé Eldorado, fait le point.
L'exploitation artisanale de l'or à l'est du Congo laisse à désirer. Selon Eric Kadjemba, team leader de la thématique mine dans la société civile du Sud Kivu, ce métal précieux est produit un peu partout, mais n'est pas déclaré correctement à l'exportation.
L'or à l'est du Congo, particulièrement au Sud Kivu, est très très mal exploité, d'autant plus qu'on en trouve en quantité très suffisante, mais il devient invisible quand il s'agit des chiffres d'exportation que nous avons. Pour te donner un exemple, je crois que le Sud Kivu n'a pas produit depuis plus de 5 ans, même pas 500 kilos d'or dans les chiffres de la production officielle. Cela s'ajoute toute la question de la gouvernance. On a une administration très corrompue, mais on sait que le Sud Kivu produit plus de 10 tonnes par an. Et l'or est vraiment objet de contrebande et de fraude massive.
Information confirmée par le coordonnateur de la cellule technique de lutte contre la fraude minière au Sud Kivu, Abbas Kayonga, qui plaide pour la réduction des taxes à l'exportation.
Plusieurs quantités d'or sont exportés frauduleusement. Mais en ce qui nous concerne, avec très peu de moyens que nous avons réussi à intercepter 5 kg et demi d'or d'une valeur de 250 000 dollars. Ça, c'était pour l'année passée. En plus, nous n'avons pas de machines pour détecter tout produit qui vient dans des camions. Mais quand même, avec ce que nous avons comme moyen d'information, nous avons les mécanismes d'alerte rapide. Mais ce qui peut nous aider, nous, si une fois on diminue les taxes par rapport aux pays voisins, nous pouvons juger la fraude suffisamment. Par exemple, au niveau du Burundi et du Rwanda, voire même en Ouganda, la taxe à l'exportation de l'or revient à 0,5% de la valeur d'achat. Ici, chez nous, c'est 2%, voire même plus.
Une étude réalisée en 2013 par le Centre des recherches et d'études stratégiques en Afrique centrale, CRESA, révèle un manque à gagner énorme dans la production de l'or en général au sud Kivu. Rémi Kassindi, directeur du CRESA.
L'or échappe totalement au contrôle du gouvernement. Et les recettes sont toujours minimes. Ça passe toujours par le Burundi, ça passe par la Tanzanie. On a remarqué qu'au niveau du site Kivu, on a plus ou moins 500 millions de dollars qui disparaissent chaque année dans le secteur de l'or. Alors que c'est de l'argent qui pouvait même financer 2 ans les élections en RDC.
À Shabunda, un des 8 territoires du site Kivu situé à 340 km de la ville de Bukavu, un scandale a éclaté au grand jour en juillet 2016 avec le rapport de l'organisation britannique Global Witness qui a révélé au monde une exploitation semi-mécanisée illégale de l'entreprise chinoise Kunhun Mining utilisant 4 dragues robots le long de la rivière Ulindi. Selon ces rapports, entre 2014 et 2015, soit une année, l'or d'une valeur pouvant atteindre les 17 millions de dollars produits par cette entreprise chinoise s'est volatilisé ayant probablement quitté le Congo en contrebande. Eric Adjimba en parle.
Quand on parle de minerais de conflit, c'est au fait cette implication de groupes armés dans la chaîne d'approvisionnement. Or, pour les cas d'espèce, comme l'a dit le rapport Global Witness, Kun Mining a coopéré avec ce groupe armé Raya Mutombo, qui c'est de leur salle. Ce qui choque, est-ce qu'il y a une contrepartie pour la communauté? Là, on n'a rien vu. Aucune école construite, aucun hôpital. La deuxième chose qu'on peut se demander, comment cette entreprise pourrait fonctionner sans personnalité juridique.
Pour le ministre provincial de Mines en fonction au Sud Kivu depuis moins d'une année, le gouvernement provincial n'a rien à faire avec l'or détenu par les groupes armés. Néanmoins, il reconnaît que sous son prédécesseur, l'entreprise chinoise a violé la législation minière congolaise, le ministre Apollinaire Boulindi.
Moi, je n'étais pas là, mais jusqu'à présent, j'ai vérifié tout ce qu'il y a. Kun Mining n'a pas de titre. Les exigences de l'OCDE ne nous autorisent pas à pouvoir nous mêler dans l'or qui est exploité par les bandes armées. Vous savez que nous sortons de l'embargo. Vous savez que nous avons 900 sites. Et sur les 900 sites, il n'y a même pas une centaine qui est qualifiée. J'ai demandé un plan d'atténuation, que le monde comprenne que la ville de Bukavu, les sud Kivu, nous sommes en face des quatre capitales. Et ça, ça favorise la fraude. Je souhaite que les grands gisements que nous avons et que je connais, qu'on puisse avoir des bailleurs de fonds qui viennent, qui fondent des sociétés officielles. Ça va diminuer le chômage.
Pour Tipson Didumbo, un notable de Shabunda, l'État est complice du malheur qui frappe la population, puisqu'il ne la sécurise pas de la prédation des entreprises minières.
Comment ces sociétés peuvent-elles arriver à travailler sur le territoire congolais en présence de l'État et après on crie qu'ils travaillent illégalement? Où passe-t-il pour arriver à Shabunda? C'est dans le sud Kivu profond. Ils s'enrichissent sur le dos de ces orpailleurs-là. On pille tout et la population ne gagne rien dans ça. Parce que le vécu quotidien de celle-ci ne s'est pas amélioré. Tu trouves les routes dans les mêmes états qu'avant.
Déjà en début octobre 2016, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière s'est saisie du dossier Kunhun Mining. Quatre personnalités, dont un actionnaire de l'entreprise chinoise et trois fonctionnaires de l'administration minière au sud Kivu, ont été interpellés à Kinshasa. Ça pour raison d'enquête et les activités de Kunhun Mining suspendues en République démocratique du Congo. Et selon aussi ça, la valeur du gisement d'or qui recèle le sous-sol de l'Est de la RDC est estimée à 28 milliards de dollars. Modé Eldorado Bukavu pour la Deutsche Welle.
Nous avons appris que les quatre personnes interpellées ont été récemment relaxées à Kinshasa en attendant la conclusion des enquêtes. Et puis ce mois-ci, au mois de novembre, Global Witness a dénoncé que depuis 4 ans, le gouvernement congolais n'applique toujours pas sa loi destinée à endiguer les conflits et les exactions dans le commerce du minerai.
Il sera formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Économie et Développement. Donner la parole aux jeunes Rwandais, c'est l'objectif de l'ONG Ejo Youth Echo, basée à Kigali. Grâce à des émissions de radio, elle fait la promotion du droit à l'information, mais aussi de la lutte contre la violence. Une manière pour les jeunes Rwandais de regarder le passé de leur pays en face, marqué, vous le savez, par un génocide. Et ils ont aussi l'occasion de discuter sur la manière dont ils voient leur avenir. Écoutez Roger Nyigena, il est coordinateur des projets pour Ejo Youth Echo à Kigali. J'ai pu le rencontrer à Bonn.
L'émission EJO, c'est une émission des jeunes qui parle sur la résolution des conflits et le développement des jeunes. Et la deuxième émission, c'est l'émission EJO Mumashuri. EJO Mumashuri veut dire EJO dans les écoles secondaires, c'est ça que je dirais. C'est un débat de 30 minutes qu'on fait avec les jeunes des écoles secondaires par rapport au comment donc la violence vieille et comment on pourrait lutter contre ça.
Qu'est-ce qui préoccupe ces jeunes?
C'est une émission qu'on a commencée en mars cette année. Et ça parle aussi de la violence, donc quelle est les jeunes rencontrent dans leur vie quotidienne. Mais surtout, ils se basent sur l'histoire, comment, donc, qu'est-ce qu'ils connaissent des moments violents qui étaient dans notre pays ou ailleurs dans la région. Mais donc, dans ces 30 minutes, c'est divisé en deux parties, je dirais. Il y a le débat, mais aussi il y a le portrait. Sur une personne qu'ils prennent comme le modèle, une personne qui a fait quelque chose dans la société, qui est jeune, qui a essayé de s'y remonter quelques moments violents et qui a aussi faire quelque chose qui les autres considèrent comme quelque chose qui n'est pas faisable ou qui est difficile à faire. Et puis de cela, les jeunes peuvent discuter sur comment et ils trouvent leurs initiatives en tant que jeunes pour lutter contre la violence et pour travailler pour un bon avenir. Parce que donc, en parlant de cela, Ejo, comme je l'ai dit comme nom, Ejo en Kinyarwanda veut dire hier, ou demain. Donc, on peut toujours se référer ici le passé pour bien construire l'avenir.
Un point important, avoir un travail plus tard, est-ce que ça c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, les jeunes? Est-ce qu'ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir aussi? Voilà, avoir un travail, avoir de quoi subvenir à leurs besoins.
On essaie de montrer des jeunes qui ont de petites entreprises et qui grandissent jour par jour et qui ont fondé ça partage de leurs connaissances. Parce que donc on dit toujours ce qu'on t'offre à l'école, c'est quelque chose donc que tu peux utiliser pour aussi contribuer dans le développement de ta région, de ton pays ou de ta région. Donc on traite aussi ces sujets et pour le moment je dirais parce que j'ai travaillé dans des émissions de jeunes depuis 2009, ça fait un bout de temps. On a travaillé sur ces sujets au fur et à mesure. Alors je vois qu'il y a vraiment un certain changement là où il y a les jeunes qui compètent et qui font pas seulement le business, mais qui peuvent donc fonder les ONG, les organisations gouvernementales, pour résoudre des problèmes, ou qui peuvent aussi aller dans les coopératives, ou donc pour un peu se mettre ensemble et créer quelque chose qui peut servir la société, mais qui peut aussi leur donner quelque chose. Donc, à manger, donc, qui leur facilite à vivre.
Merci beaucoup.
Merci aussi.
Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site ejoyoutheco.org. Et pour réentendre ce magazine économie et développement, rendez-vous sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine. Alors,